Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Nos modes de consommation et nos pratiques alimentaires sont plus que jamais remises en cause avec la crise sanitaire que nous traversons, mais cela fait un certain temps déjà que ces questions taraudent l'esprit de notre invitée, Céline Basset. Céline Basset, bonjour.
Bonjour.
Après plusieurs années passées à étudier différentes méthodes d'agriculture à travers le monde, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Asie du Sud-Est, vous avez décidé de revenir vous installer en France pour poursuivre vos recherches en transition agricole, avec pour objectif d'instaurer une autonomie alimentaire à échelle locale. Et c'est dans la Drôme, à Diolfi, que vous avez choisi de monter l'année dernière l'une de vos fermes expérimentales, baptisée la ferme Blue Soil. Un concept de ferme que vous avez à ce jour déjà implanté aux États-Unis, au Vietnam ainsi qu'en Birmanie. Cette ferme que vous avez construite à Diolfi repose sur un système bien particulier qu'est la microbioponie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la microbioponie ?
Eh bien, ouais, merci. Donc la microbioponie, c'est une discipline qui est très innovante et qui consiste à cultiver des micro-organismes et de la culture végétale. Donc en gros, l'utilité, c'est en cultivant ces micro-organismes, on va donc pouvoir naturellement nourrir et produire des plantes, comestibles ou non comestibles.
Et quels sont les avantages de ce type d'agriculture ?
Alors, il y en a plusieurs. L'idée, c'est de surtout pas remplacer le sol par des systèmes hors sol. Donc la microbioponie, c'est un système qu'on peut qualifier hors sol, c'est-à-dire c'est une culture en eau. Et donc, soit elle peut utiliser la culture avec l'aquaponie régénérative des sols, c'est-à-dire on va faire de la pisciculture, de la culture de micro-organismes et de la culture de plantes. Mmh. Sauf que l'aspect pisciculture, ici, je ne le développe pas, donc je reste toujours très focus sur organismes et culture de plantes.
Pisciculture, c'est vraiment culture qui est basée, en fait, les plantes poussent grâce à l'eau.
Alors, le principe, comment ça fonctionne ? La microbioponie, donc, on va avoir une source d'ammonia, ok, qui va être une source de nutriments.
Source d'ammonia.
D'ammoniac. Donc, par exemple, en aquaponie classique, on va utiliser la déjection des poissons, qui vont être transformés par des micro-organismes, qui ces micro-organismes vont rendre absorbable la déjection des poissons par les racines des plantes. Et l'eau va circuler dans un circuit d'eau fermé. Donc, en aquaponie classique, malheureusement, cette production de poissons représente 80% de chiffre d'affaires, et moi je voulais aller plus loin puisque j'ai pratiqué effectivement l'aquaponie classique et j'ai voulu transformer ces systèmes-là en un système très résilient qui peut à la fois densifier une culture végétale et permettre une culture de micro-organismes qui vont servir à être prélevés et à réensemencer les sols malades ou stressés ou morts ou qui ont vraiment besoin d'être vivifiés.
Donc c'est ce que vous appelez donc la microbioponie régénérative des sols. Donc ça veut dire que ce type d'agriculture n'a pas vocation à remplacer l'agriculture faite en terre, on va dire, traditionnelle.
Exactement. C'est un outil qui va être complémentaire chez le paysan ou alors dans une zone urbaine, telle Brive-la-Gaillarde, Lyon, Paris, dans une zone très très dense, eh bien, qui va permettre aussi temporairement de pouvoir amortir le choc en cas de risque majeur d'effondrement de la chaîne alimentaire. C'est une double fonction alimentaire et qui permet de revivifier les sols. Donc c'est un outil qui doit générer des sources de revenus, des différentes lignes de production et qui va en même temps régénérer les sols. En aucun cas, il doit remplacer la culture en pleine terre. Il est interactif.
Et donc ça se fait qu'à petite échelle.
Exactement.
Par exemple, votre ferme, elle peut permettre une résilience alimentaire sur quelle échelle du territoire ?
Alors, sur 9 mètres carrés, donc dans la ferme Blue Soil, qui est à Diolfi, on a un lit de culture de 9 mètres carrés. Sur 9 mètres carrés, on est capable de fournir 480 assiettes sur un an. Ça veut dire que ça nourrit une personne pendant plus d'un an avec une assiette végétale par jour.
Et vous produisez quel type de plantes ?
Alors justement, là, je vous ai amené ce matin des tomates.
Oui.
Donc ça, c'est la fin du cycle des tomates d'hiver. Donc l'idée, c'est de fournir toute l'année des légumes et des fruits qui vont pouvoir pousser toute l'année, de manière à ce que, du côté des consommateurs, on apprend un petit peu à
se recaler sur les saisons.
Voilà. Mais si c'est fait brusquement, on est avec une population au niveau national et pas que, mais international, qui est très peu tolérante à la frustration. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir cultiver toute l'année. Donc par exemple, cette année, j'ai fait différents types de salades, j'ai fait de la cœur de bœuf, la tomate yellow taxi de Cocopelli. Donc, je fais que de la graine paysanne aussi, hein, que je sois claire. Donc, en eau, mais des graines aussi, je fais de la semence en terre. Et donc, je donne mes semences aussi, je ne les vends pas. Je précise, étant agricultrice, c'est interdit. Donc, pour en revenir à ces légumes, l'idée, c'est vraiment de produire... Voilà, j'ai fait du basilic en plein mois de janvier. Le maire, donc M. Bussa, a pu d'ailleurs goûter le pesto au basilic du mois de décembre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire des expérimentations et de voir combien d'assiettes végétales je peux fournir sur 9 mètres carrés. En terre, il faut savoir qu'il faut 70 à 75 mètres carrés pour nourrir une personne avec les mêmes cultures. Et on la nourrit à peine 5 mois dans l'année.
Et est-ce que ce type de plantes que vous produisez ont les mêmes nutriments ? Comment déjà vous étudiez en fait la valeur nutritionnelle de vos productions ?
Alors, je travaille avec un laboratoire qui s'appelle Eurofins, qui est un laboratoire européen qui en fait fait de l'analyse nutritionnelle. Donc, par exemple, les tomates Cocopelli, des tomates jaunes, celles que je vous ai amenées, mes plus belles tomates, malheureusement, je les ai données au laboratoire pour qu'elles soient analysées, pour qu'on regarde le taux de vitamines, qu'on regarde vraiment tous les indicateurs qui doivent correspondre. Déjà, au niveau commercial, ça doit remplir des valeurs. Et puis, en fait, ce que je me suis aperçue, c'est qu'il y avait même, on était au-delà des valeurs. Donc, ça va vraiment dépendre de la source de nutriments d'origine. Donc, c'est là que j'en reviens à l'aquaponie classique. Si vous nourrissez vos poissons avec des granulés, ça va être une catastrophe. Vous allez avoir un système carencé. La grande échelle ne permet pas la stabilité des micro-organismes. La grande échelle, l'exploitation, va amener à couper des coûts et à amener à nourrir des poissons qui ne respectent pas leur métabolisme. En anglais, je dis « happy fish, happy poop » à mes étudiants. Mais en gros, un poisson qui mange bien, à base d'insectes, de pelures, de légumes, où on respecte son rythme biologique.
Et ces déjections seront forcément meilleures pour les plantes.
Et donc votre légume sera plein de nutriments. Et donc quand vous le faites analyser par un laboratoire, vous avez des bonnes surprises.
Et quel type de poisson justement vous...
Alors moi je fais du tilapia.
Du
tilapia.
Tilapia.
Puisque je travaille, l'axe de recherche ici c'est les problèmes de température. Donc je fais beaucoup de stress tests. Donc la truite, vous oubliez, c'est un poisson d'eau vive qui aime bien le frais. Donc à 13-14 degrés.
Qui a besoin de grands espaces aussi.
Et oui.
Et il y a aussi ça à prendre en compte. Parce que là, c'est des bassins qui sont gros comment à peu près ?
Quand même. Là, j'ai tout fait en low-tech. Donc pareil, c'était aussi le challenge.
En low-tech ?
En low-tech, en basse technologie. Ouais. C'est-à-dire faire vraiment un coût minimum. On a utilisé donc une serre géothermique qui a été construite avec la méthode Earthship, qui consiste en fait à faire des murs avec de la géothermie, un aspect bioclimatique qui va retenir la chaleur et la redistribuer pendant la nuit. On a d'ailleurs, il y a Bati Eco aussi, donc Monsieur Bastien Chalon, qui a généreusement participé avec son équipe à généreusement nous a pas financé, mais nous a donné par exemple tout l'enduit avec la projeteuse. Donc pour le coup, il y a eu vraiment une belle participation de certains acteurs dans ce projet. Merci à lui. Et donc, le système en lui-même, il est fait avec une fosse septique qui a été nettoyée, découpée. Donc, le bac fait 4000 litres d'eau. Et dans le système total, on a 8000 litres d'eau qui circulent de manière permanente. Et il n'y a aucun rejet dans la nature. Et c'est uniquement fait avec de l'eau de pluie. Donc, contrairement, là encore, à un système d'aquaponie classique qui remplace entre 5% de son eau à parfois 40% de son eau par jour... On n'est pas du tout dans les mêmes choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle vraiment de microbioponie, puisque le liquide qui est à l'intérieur est presque un liquide amniotique nutritif en micro-organismes et en nutriments.
Et ce type d'agriculture, donc microbioponie, mais qui s'inspire, si j'ai bien compris, de l'aquaponie, est-ce qu'il est duplicable partout, dans tous les territoires ?
Alors, il est duplicable dans différents climats déjà, puisque donc l'objectif d'avoir fait États-Unis, Brooklyn, avec un climat très continental humide qui est franchement pas drôle, avec le blizzard, enfin je veux dire ici ça va encore, et un climat tropical, subtropical, avec des terres contaminées à l'agent orange au Vietnam, je veux dire ça a vraiment, tout est duplicable, c'est vraiment l'objectif, en fait c'est... Et la microbioponie, le but, c'est d'être le 4-4 de l'agriculture, la route secours en cas de problème. C'est-à-dire en cas de rupture d'approvisionnement de nos chaînes alimentaires, comme le dit très bien Stéphanie Hinoux dans son bouquin, et comme les greniers de l'abondance, justement, reprennent les travaux de M. Hinoux par rapport à cette qu'ils font.
Voilà, sur la résilience alimentaire.
Exactement. Eh bien, l'objectif, moi, de manière très pratico-pratique, eh bien, je travaille, j'ai testé empiriquement ces différents systèmes dans différents pays, dans différents climats. Et dans les climats, il y avait à la fois le climat tropical, subtropical et continental, et ici, montagnard, semi-méditerranéen, on est un peu hybride ici. Mais il y a aussi une étude avec le lien social, à quel point, en fait, il va pouvoir aider les nouveaux agriculteurs, les nouveaux actifs agricoles, à déployer une agriculture régénérative.
Parce qu'il y a ça aussi que vous mettez en place, sur lequel vous travaillez, parce que vous avez aussi une association, Archimède, qui propose des ateliers auprès autant de toute la population, mais aussi c'est adressé aux agriculteurs pour justement essayer de poser la réflexion sur les nouvelles pratiques agricoles qu'on peut commencer à mettre en place. Comment ça se passe en fait ce dialogue avec les agriculteurs de la région ?
Alors, avec les agriculteurs de la région, écoutez, ça se passe... Alors, déjà, Dieu le fit, on n'a pas beaucoup de maraîchers, puisque la terre s'y prête très peu. Elle est très argilo-calcaire à certains endroits. Puis bon, bah, la question du foncier est toujours un gros problème. Par contre, je travaille avec d'autres agriculteurs, notamment des agriculteurs dans le Lot, qui sont des agriculteurs qui sont en agriculture conventionnelle, qui ont fait le pari de passer en agriculture biologique. Donc, il faut savoir que pour un agriculteur, quand on a 60 hectares à 300 hectares, c'est vraiment un gros challenge. Et cette partie agricole est très importante, cette partie de communication avec les agriculteurs est fondamentale, parce que ce sont eux qui nous nourrissent. Donc déjà aussi, au niveau de l'agribashing, moi je ne supporte pas cette agribashing qui est faite pour les agriculteurs. Ce sont des personnes qui sont censées nous nourrir, et ce n'est pas non plus de la faute de la Chambre d'agriculture d'appliquer des politiques qui viennent en fait de tout en haut. Donc quand vous comprenez la situation dans laquelle est un agriculteur qui est dépendant d'une PAC, donc d'une subvention ou non, il a très peu d'espace et de temps libre en vrai pour pouvoir faire les choses bien. Quand vous passez en agriculture biologique, vous mécanisez moins, vous n'utilisez moins les intrants. Mais il va y avoir des conséquences sur le rendement, la productivité et donc sur les capacités alimentaires. Et ça, c'est lié à la régénération des écosystèmes. Un écosystème, quand il va cicatriser, il va être dans un déséquilibre. Et donc avant qu'on arrive à nourrir 67 millions de Français avec des pratiques agricoles régénératives, il va se passer des dizaines d'années. Donc on n'a pas le choix que de rétablir le dialogue avec les agriculteurs, de comprendre leur situation sociale, leur détresse sociale, et de faire maillage et de faire organisme avec eux. C'est-à-dire que les nouveaux agriculteurs et même les citoyens, on a besoin de votre aide en fait. Le but, c'est vraiment de démocratiser les savoirs et aussi de pas de ramener une réalité agricole. Parce que souvent, j'ai pu observer qu'il y avait des gens qui avaient des projets et qui achetait du terrain, et puis deux ans plus tard, il se cassait la figure, parce que c'est un véritable mariage, l'agriculture. On n'a pas d'apéro. L'année dernière, je ne pouvais pas prendre mes apéros, je devais arroser, je cultive le matin très tôt ou le soir très tard, parce qu'en pleine journée, en façade sud, ce n'est pas possible. Surtout quand on veut faire des pratiques régénératrices. Donc, c'est vraiment une sorte de grosse expérimentation en France, pour pouvoir affiner ces outils de transition qui vont être disponibles pour les paysans, les agriculteurs, mais aussi les éleveurs. Parce qu'il y a des éleveurs qui ont besoin de multiplier leur ligne de production et donc d'avoir des revenus locaux. Voyez.
Et là, vous avez déjà commencé à établir un peu de dialogue avec les agriculteurs ?
Oui, tout à fait. Alors,
et
là,
quels sont les retours ?
Alors, au début, c'est toujours très compliqué. Hein. C'est qui cet ovni qui débarque ? Puis en plus de ça, je suis une femme, donc c'est voilà, c'est un peu coton,
double
peine. Mais c'est pas grave. Au contraire, je trouve qu'au final, je tourne ça à mon avantage. Donc là, je suis en discussion, par exemple, avec la Chambre d'agriculture de Corrèze, donc les élus de la communauté de communes de Brive-la-Gaillarde, du bassin de Brive, sont dans un projet de résilience alimentaire aussi, comme l'est notre communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux. Et donc, j'accompagne différents PAT, donc plans alimentaires territoriaux. Et là, la Chambre d'agriculture de Corrèze est un des acteurs qui va rentrer pour porter, si vous voulez, ce PAT. Et quand on élabore un dialogue avec un directeur de chambre, eh bien, moi, j'ai été très agréablement surprise. Après 3 heures d'entretien, ils sont absolument ravis et ils demandent justement plein de renseignements. Ils vont même venir, je les ai invités à venir sur l'exploitation de Dieulefit. Donc ça se passe plutôt bien. Après, bien sûr, les choses ne se font pas aussi rapidement. Il faut être patient et se mettre à la place des autres. Donc il faut vraiment comprendre la problématique agricole aujourd'hui. C'est nécessaire.
Et est-ce que le fait de vous installer à Dieulefit, c'était un choix qui était prévu depuis longtemps ?
La bonne question. Alors, moi, j'ai vraiment été, quand je suis rentrée du Vietnam, je suis rentrée du Vietnam en octobre 2018, et après, je suis repartie en Birmanie, puis après, je suis définitivement rentrée en début janvier 2019 en France. En juin 2019, je m'installais à Dieulefi, et moi, ce qui m'intéressait, c'était la difficulté du sol.
Vous connaissiez déjà Dieulefi précisément ?
Alors, pas Dieulefi précisément, mais je connaissais la Drôme et le Vaucluse. Donc au début, j'ai un peu traîné mes guêtres du côté de l'Île-sur-Sorgue dans le 84. Et puis après, j'avais pas non plus beaucoup de moyens financiers. Donc à l'époque, c'était encore abordable le foncier à Dieulefi. Contrairement à maintenant. Et alors, là où je me suis installée, c'était génial parce qu'il y avait du caillou, un pH à 8,8 dans le sol, une ancienne colline de potier, une façade sud, un terrain en pente. Donc j'ai acheté le terrain le plus merdique en fait de la région et c'était là pour
ça
moi qui était intéressant. Ça correspondait
à vos recherches.
Voilà. La colline de Potier, la régénérer et arriver à en faire de la semence, c'est quand même un sacré challenge. Hein. Voilà.
Céline Basset, merci.
Merci Clara d'avoir compris tout ça.
Alors, je rappelle que vous êtes agricultrice et que vous venez de monter votre ferme expérimentale à Dieulefi. Cette ferme, donc, du nom de Blue Soil, s'inscrit dans un projet plus large que vous menez depuis plusieurs années maintenant. Il consiste à explorer et expérimenter de nouvelles méthodes d'agriculture dans le but de favoriser l'autonomie alimentaire des territoires. On peut suivre vos actions sur votre site bluesoil.org ainsi que via les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et Instagram, sur lesquels vous partagez de nombreuses vidéos explicatives sur votre démarche.
Ouais, merci.
Radiola.media.